Bonjour, chers frères. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Nous allons tout de suite commencer par un verset. J'aime citer ce verset à ceux qui viennent de s'installer, qui s'intéressent à la vérité depuis peu. Nous allons passer à Jean, chapitre 6 et verset 44. Jean 6 et verset 44. J'ai eu l'honneur, le privilège récemment de travailler avec l'année dernière, principalement, mais bien sûr, lorsque j'étais activement pasteur sur le terrain, j'ai travaillé avec les demandes d'église, ceux qui sont intéressés à venir avec nous. C'est intéressant et amusant de travailler à nouveau avec eux. Souvent, c'est amusant de les voir appelés par Dieu en dehors du monde et de voir la vérité s'allumer en eux, leur excitation. Et quand je vois cela, j'aime souvent me tourner vers ce verset de Jean 6. Nous le lirons d'abord au verset 44. Il dit ceci: Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Passons à Jean 6, 65, quelques versets plus loin. Il dit: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par mon Père. Nous avons une vocation très spéciale, mes frères. L'appel que Dieu nous a donné n'est pas quelque chose que vous ou moi avons gagné ou réalisé par nous-mêmes. Dieu vous a choisi dès la fondation du monde, nous le savons maintenant, d'autres versets bibliques le disent, Dieu vous a choisi individuellement. Il vous appelle d'un monde qu'il n'appelle pas en ce moment. Les masses auront leur chance en temps voulu, mes frères. Nous le comprenons tous. Dieu donnera à tout le monde la même chance d'accéder à la vie éternelle que vous et moi. Mais il vous appelle. Il vous donne une chance très spécifique d'accéder à la vie éternelle maintenant. Dieu a en effet choisi d'ouvrir la ligne de communication avec vous et d'entamer une relation de travail vers la vie éternelle. Comprenez-le bien. Dans Jean 6, nous avons ce verset que j'aime citer aux frères qui sont nouveaux, aux personnes qui sont nouvellement intéressées à venir avec nous. Mais un verset complémentaire, un verset qui est lié à Jean 6, se trouve dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 et verset 4. Éphésiens 4 et verset 4. À quel point l'appel que Dieu nous a donné est-il spécial? Lisons. Éphésiens 4, 4. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous savons et croyons tous, évidemment, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a un seul baptême. Une seule foi. Il ne peut y avoir plusieurs religions différentes. Le monde voit qu'il y a, dit que quelle foi êtes-vous? Quelle est votre foi? Je suis de confession catholique. Je suis de confession protestante. Il n'y a pas beaucoup de religions différentes. Il n'y a qu'une seule foi. Il y a une seule croyance en la vérité. Il y a un seul baptême. Nous croyons à toutes ces choses. La question est donc de savoir, frères, si nous croyons et comprenons la gravité lorsque Dieu dit qu'il n'y a qu'une seule espérance pour notre appel. Nous n'avons pas 5, 10 ou 20 occasions de répondre à l'appel que Dieu nous a donné. Il nous a appelés une fois. Il nous a appelés une seule fois. Sachant que Dieu ne ment pas, il nous a dit à l'avance que nous n'avons qu'une seule chance d'accéder à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas faire bombance, renier complètement la vérité, commettre le péché impardonnable, si vous voulez, abandonner complètement tout. Cesser de se repentir, cesser de tout faire. Quitter l'Église de Dieu et s'attendre ensuite à ce que Dieu nous rappelle. Cela ne marche pas comme cela. Dieu n'offre pas plusieurs appels. Il nous en donne un. Passons maintenant au chapitre 1 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous devons apprécier et comprendre à quel point il est spécial d'être dans l'Église de Dieu. Cet appel ne doit pas être pris à la légère. Dieu voulait construire une relation avec vous, c'est pourquoi il vous a personnellement choisi au moment où il l'a fait. Vous pouvez avoir 20 ans ou 90 ans. Quel que soit le moment, quel que soit le moment de votre vie où Dieu vous appelle, il vous dit, « Je vais commencer à établir une relation avec vous maintenant. J'ouvre cette relation. » Le verset 11 du chapitre 1 de la deuxième épître aux Thessaloniciens ajoute ceci. « C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de cet appel, et qu'il accomplisse avec puissance tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi. » Frères et sœurs, je vous pose la même question qu'à moi-même, sommes-nous dignes de notre appel? Comment remplissons-nous notre appel? Comment construisons-nous la relation avec Dieu, le Dieu qui vous a choisi personnellement? Où en sommes-nous? Vous savez, nous allons passer au chapitre 10 de Luc. Je voudrais faire une petite remarque à ce sujet. Dans la Bible, les avocats avaient l'habitude de tenter Christ et posaient souvent une question très similaire à celle que nous posons en ce moment. Comment pouvons-nous être à la hauteur de notre vocation? Ou comment pouvons-nous obtenir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour recevoir toutes ces choses merveilleuses que vous avez décrites dans la Bible? Le problème, c'est que les avocats de la Bible, souvent, ne sont pas venus avec un cœur et un esprit ouverts pour essayer de comprendre comment recevoir la vie éternelle. Ils essayaient simplement de piéger Christ dans ses paroles. Ils essayaient de le surprendre en train de dire quelque chose qui allait à l'encontre de la Bible. Les avocats sont très doués pour cela. Les avocats sont très doués pour essayer de trouver des échappatoires et des moyens de contourner la loi, différentes façons d'interpréter la loi et ainsi de suite pour la manipuler afin qu'elle dise peut-être le contraire de ce qu'elle dit réellement dans la loi. C'est ce qu'ils font avec les lois des hommes. Et, bien sûr, nous voyons ici qu'ils le font aussi avec la loi de Dieu. Nous lirons donc dans Luc, chapitre 10, le récit de cet avocat qui pose une question similaire à celle que nous posons. Nous lirons le récit de cet avocat qui pose une question similaire à la nôtre. Comment recevoir la vie éternelle? Ou comment vivre à la hauteur de la vocation que Dieu nous a donnée? Nous voyons ici, nous lisons Luc chapitre 10, verset 25, et il lui dit, « Qu'est-ce que... Excusez-moi. » Verset 25, je lisais 26. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et le tenta en disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Sauf qu'il n'est pas vraiment intéressé par la réponse. Ce qui l'intéresse, c'est d'attraper Christ. Christ lui dit, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Que vois-tu ? Que dit la Bible ?» Et il répondit, l'homme qui répond à sa propre question dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Sa réponse était correcte. Il a répondu correctement à sa propre question. C'est donc de sa propre bouche que Christ a pu lui dire, « Tu as la bonne réponse. » Et il le dit au verset 28. Et il dit, « Tu as bien répondu, fais ceci, et tu vivras. » Et sa réponse était assez simple et elle était vraie. Il y a deux voies qui résument la manière dont nous devons recevoir la vie éternelle. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force, et aimez votre prochain comme vous-même. En d'autres termes, vivez le mode de vie du don. Aimez Dieu. Vivez le don à Dieu. Vivez le don de la vie à l'humanité. Ne vous concentrez pas sur vous-même. C'est ce que fait le monde. C'est pourquoi les 10 commandements sont si importants, car Dieu dit qu'il nous aide à rester tournés vers l'extérieur. Il nous aide à concentrer notre attention sur les autres, y compris sur Dieu. Le Dieu même qui nous a appelés à sortir du monde. Il a donc donné une réponse correcte, puis il a continué et a essayé de se justifier et de le piéger davantage avec ses mots et ainsi de suite. Mais nous savons tous que Christ, très rapidement, a été en mesure de mettre un terme à tout cela. Le chapitre 22 de Matthieu dit quelque chose de similaire avec un autre avocat. Matthieu 22, verset 33. Matthieu 22, verset 33 dit ceci, « La foule, en entendant cela, fut frappée de sa doctrine. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fait taire les sadducéens, s'assemblèrent. L'un d'eux, qui était avocat, bien sûr, lui posa une question, le tentant et disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Question très similaire. L'autre homme demanda, « Comment puis-je recevoir la vie éternelle ?» Et la réponse est la même. Jésus leur dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand des commandements. Cela résume, pourrait-on dire, les 4 premiers commandements de la Bible, des 10 commandements. Le deuxième est similaire, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les 6 derniers commandements se résument à l'amour du prochain comme soi-même. C'est sur ces 2 commandements que repose toute la loi et les prophètes. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament renvoie à l'un de ces 2 commandements. Vivre le don de la vie en aimant Dieu. Vivre le don de la vie en aimant l'humanité. Construisez votre relation avec chacun d'entre eux selon la parole de Dieu. Nous connaissons tous les 10 commandements. Nous allons examiner brièvement les 5 derniers pour les énumérer. Nous savons tous que les 5 derniers concernent évidemment l'établissement de relations avec d'autres personnes. Le 5e commandement est d'honorer son père et sa mère. Le 6e commandement est de ne pas tuer. Aimer son prochain implique certainement de ne pas le tuer. Le 7e commandement est de ne pas commettre d'adultère. Ce n'est pas seulement un acte contre Dieu et contre votre propre personne lorsque vous commettez l'adultère. C'est un acte contre votre femme, votre mari, votre époux. Ne vole pas est le 8e commandement. Ne pas mentir et ne pas convoiter sont les 6 derniers commandements. Il est évident, mes frères, que tous les 10 commandements sont essentiels. Nous savons qu'ils ont tous leur place. Dieu veut que nous revivions le mode de vie du don. Et il dit dans le chapitre 2 de Jacques, versets 10 et 11, que si nous enfreignons un seul commandement, nous les avons tous enfreints. Les commandements ne sont donc pas à prendre à la légère. Nous ne pouvons pas choisir les commandements que nous voulons garder et ceux que nous voulons rejeter. La Bible est très claire. Dieu est très clair. Il a écrit les commandements sur la pierre à 2 reprises, en répétant la même chose pour que nous comprenions bien. Lorsque nous enfreignons un commandement de Dieu, quel qu'il soit, nous enfreignons toute la loi. Ainsi, frères, nous allons nous concentrer sur les 4 premiers commandements pour nous aider et à évaluer notre relation avec Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous a donné cette vocation spéciale. Et lorsqu'il l'a fait, il ne nous l'a pas donné avec désinvolture. Il nous l'a donné dans un but précis. Il a choisi de vous appeler. Et il a choisi de construire une relation avec vous à partir de ce moment-là. La question que je nous pose aujourd'hui est donc la suivante, comment construisons-nous cette relation avec Dieu? Comment lui rendre l'appareil? Comment nous aidons-nous à devenir dignes de l'appel que Dieu nous a donné? Nous allons examiner ces 4 premiers commandements, comme je l'ai dit, et cela nous aidera, Tous les quatre nous aideront à évaluer notre relation actuelle avec Dieu, là où nous pourrions faire mieux, là où nous faisons déjà bien, et partout entre les deux. Passons donc au chapitre 20 de l'Exode. Passons au chapitre 20 de l'Exode. Dans votre Bible, vous avez peut-être un de ces marqueurs de livres. Vous pouvez les placer dans votre Bible, car nous reviendrons plusieurs fois sur le chapitre 20 de l'Exode. Exode 20, nous reprenons au verset 1 pour commencer. Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu se qualifie de Père. Nous savons que nous l'appelons le Père dans nos prières et les uns envers les autres, Dieu le Père est son nom, l'un de ses noms. Et en tant que Père moi-même, je comprends mieux, maintenant que j'ai une fille et que j'en ai une autre en route, ce que Dieu ressent lorsqu'il voit des gens enfreindre ce premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi pour être modifié et dire tu n'auras pas d'autre Père devant moi. Nous avons tous des pères humains, alors bien sûr, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de pères humains, mais nous ne devrions pas mettre d'autres dieux devant Dieu. J'essaie d'imaginer que ma fille s'approche un jour de moi et me dise « Je ne veux plus être ta fille. Je ne vais pas te considérer comme mon père, mon papa. Je vais aller voir cette autre personne. » Puis elle choisit un nouveau père et commence à le suivre, à l'aimer. Après tout le travail et les efforts, le temps, le dévouement, les nuits passées avec ma fille, je ne pouvais pas imaginer ce que je ressentirais si elle m'abandonnait pour aller chercher un autre père. C'est ainsi que les choses se passent du point de vue de Dieu le Père. Même en commençant par Adam et en remontant jusqu'au jardin, les deux premiers êtres humains, les deux premiers enfants de Dieu, nous savons, je crois que c'est dans Luc, que le récit de la généalogie de Luc dit qu'Adam était le fils de Dieu. Dans le récit de la généalogie de Luc, il est dit qu'Adam était le fils de Dieu. Il était le premier fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et immédiatement, Adam se tourne vers un autre Dieu et commence à lui obéir. Il se détourne de son Père, le Dieu de l'univers. Dieu ne veut pas que nous nous détournions de lui. Passez au chapitre 8 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous reprendrons au verset 5. Je vais lire quelques versets. Paul, s'adressant aux Corinthiens, dit, « Car s'il y a des gens qu'on appelle Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, s'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu. » C'est ce que nous lisons dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et nous en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et nous par lui. Ainsi, frères, Paul déclare clairement, et je sais que ce n'est pas nouveau pour nous, mais nous examinons ce premier commandement pour nous aider à comprendre comment construire une meilleure relation avec ce même Dieu qui nous a appelés. Et la première façon d'y parvenir est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne pouvons en aucun cas aller adorer d'autres dieux. Vous pourriez dire, « Eh bien, monsieur Holcon, c'est assez évident. Je ne vais pas aller adorer Bouddha. Je ne vais pas retomber dans la croyance en la Trinité. » Ma mise en garde est la suivante, mes frères, laissez l'histoire nous guider. Aucun d'entre nous n'a l'intention d'aller adorer un autre Dieu. Mais n'oubliez pas l'avenir pas trop lointain ou le passé historique de ce qui s'est passé dans la Worldwide Church of God. Dès la mort de M. Armstrong, des séducteurs se sont emparés du sommet de l'Église et ont ramené lentement, mais assez rapidement en fait, toute l'Église à croire en un Dieu entièrement différent. Ils sont revenus à la croyance de la Trinité et tout le monde y a cru. Ces mêmes personnes, au début des années 80 ou 70, auraient probablement dit qu'elles ne croiraient plus jamais en la Trinité, sauf quand elles le feraient. Frères et sœurs, peuple, ne sous-estimez jamais la tromperie de Satan. Comme il peut être trompeur. C'est pourquoi nous devons revenir en arrière, éprouver et réprouver les choses. Dieu sait que nos esprits sont comme des tamis. Ils peuvent glisser, des choses peuvent passer par le fond. Les choses que nous avons prouvées ou connues dans le passé peuvent très facilement nous échapper si nous ne revenons pas en arrière et ne les corrigeons pas. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose de revenir en arrière si nous n'avons pas lu le livre sur la Trinité, par exemple, pour prouver que Dieu n'est pas une Trinité. Dieu n'est pas trois en un. Vous pourriez dire, oui, mais je l'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que si nous l'avons prouvé dans le passé, il est bon de le prouver à nouveau de temps en temps. Rafraîchissez votre esprit sur la raison pour laquelle vous croyez, parce que je parie que si nous n'avons pas lu le livre sur la Trinité depuis longtemps, nous pourrions peut-être nous rappeler un, deux ou cinq points importants dont nous nous souvenons et qui expliquent pourquoi Dieu est une Trinité. Mais en le relisant, nous renforçons notre confiance et nous nous disons, « Attendez une minute, je sers le bon Dieu. Je ne sers pas un faux Dieu. Je sers le Dieu qui m'a appelé, qui a ouvert mon esprit miraculeusement. » Parce que cet appel est un miracle, mes frères, aucun d'entre nous ne pourrait l'expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer comment Dieu peut ouvrir notre esprit et les gens à côté de nous peuvent lire les mêmes versets sur le sabbat ou les jours saints ou lire les mêmes versets sur le fait qu'aucun homme ne va au paradis quand il meurt ou ne va en enfer quand il meurt. Et ils se contentent d'eux, c'est comme un regard vide. On ne peut pas raisonner avec eux. On ne peut pas leur parler parce que pourquoi? Dieu ne les appelle pas à ce stade. Et c'est le Dieu de l'univers qui nous appelle. Avant d'être appelé par Dieu, revenons à ce verset du chapitre 8 des 1 Corinthiens qui dit qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Et avant d'être appelé par Dieu, nous avons servi beaucoup de ces faux dieux, même si nous ne le savions pas. Mais tournons-nous vers le chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Nous lirons le chapitre 4 des Galates et le verset 8. Voici ce que dit le verset 8 de Galates, « Comment se fait-il donc que, n'ayant pas connu Dieu, vous ayez servi ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux ? Nous avons peut-être cru en la Trinité, ou nous avons peut-être cru, si vous venez d'un autre milieu, d'un milieu non chrétien, vous avez peut-être cru en qui sait, en doute. Vous savez, en tous les dieux différents, dans la religion hindoue ou dans divers autres dieux de ce monde. Il y a de nombreux dieux et de nombreux seigneurs. Nous sommes sortis d'une religion ou d'un mode de pensée. Même si nous sommes athées, si nous croyons qu'il n'y a pas de Dieu, ce qui est également une mauvaise façon de penser, nous en sommes sortis. Et nous avons servi d'autres dieux. Maintenant, je veux nous mettre en garde lorsque nous disons que Dieu dit que nous avons servi d'autres dieux, cela signifie-t-il que si nous voulons retourner servir d'autres dieux, cela signifie-t-il simplement que nous retournons servir la Trinité, par exemple? C'est une façon d'enfreindre le premier commandement. Nous pouvons tomber dans le même état d'esprit que ceux qui ont apostasié et commencé à adorer un autre Dieu, un autre Jésus. Mais le premier commandement commence-t-il et s'arrête-t-il à la lettre de la loi, si je peux m'exprimer ainsi? Ou existe-t-il d'autres types de dieux que nous pouvons adorer et qui sont peut-être plus subtils, plus trompeurs, plus dangereux? Si je peux m'exprimer ainsi. À maintes reprises, Christ a dit dans Matthieu 5, vous pouvez vous y reporter, qu'il est venu pour magnifier et amplifier la loi. Il n'est pas venu pour supprimer la loi, comme le croient les masses aujourd'hui. Il est venu magnifier, amplifier la loi. C'est ce qu'on lit au verset 18 de Matthieu 5. Matthieu 5, 18. Je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Cela n'est pas encore arrivé, pour autant que je sache. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul iota, jusqu'à ce que tout soit accompli. La loi est toujours intacte, y compris les 10 commandements. Verset 19. Quiconque donc violera l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens ne s'intéressaient qu'à la lettre de la loi. Mais Christ dit que la loi n'a pas disparu. Il faut aller au-delà de ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Vous devez prendre, vous devez non seulement observer la loi, mais pas de la même manière qu'eux, où ils sont satisfaits d'eux-mêmes et l'observent à leur manière. Mais nous ne devons pas seulement observer la loi, nous devons aller plus loin. Nous devons faire un pas de plus. Et voici ce qu'il veut dire par là. Au verset 21, il est dit, « Vous avez appris qu'il a été dit par les anciens que tu ne tueras pas. » Nous venons de voir qu'il s'agissait du sixième commandement. Tu ne tueras pas. Les scribes et les pharisiens le savaient, ils le respectaient, mais nous sommes censés prendre, nous sommes censés aller au-delà de ce que les scribes et les pharisiens croyaient. Notre justice doit dépasser la justice des scribes et des pharisiens. Comment cela se fait-il? Eh bien, si nous regardons le sixième commandement, celui de ne pas tuer. Le verset 22 dit ceci, « Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison s'expose au jugement. Quiconque dira à son frère, « Raca », sera menacé par le conseil. Mais quiconque dira, « Insensé », sera menacé par le feu de l'enfer. C'est pourquoi, si tu apportes ton offrande à l'autel, et ainsi de suite, Dieu dit, non seulement tu ne dois pas tuer, mais tu ne dois pas non plus tuer. Dieu dit que non seulement il ne faut pas tuer, mais qu'il ne faut pas se mettre en colère et haïr les autres. Vous avez maintenant enfreint la loi d'une manière différente. Dieu élargit le sixième commandement. Descendons au verset 27. Il dit, vous avez appris qu'il leur a été dit autrefois que tu ne commettras pas d'adultère. Selon la lettre de la loi, l'adultère signifie qu'il ne faut pas commettre, avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes en dehors de sa femme ou de son mari. Mais est-ce tout? S'agit-il seulement de la lettre de la loi ou cela va-t-il plus loin? Christ dit au verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Christ prend la loi et l'élargit. Il ne la supprime pas. Il la rend encore plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Il le fait à nouveau au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre un adultère. Quiconque épouse une femme désavouée commet un adultère. La loi sur le mariage et le divorce est élargie. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Tout cela culmine au verset 48, qui dit, « Soyez donc parfaits. Devenez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Si nous voulons devenir comme Dieu et construire notre relation avec lui, Nous devons comprendre que ce premier commandement, pas d'autre Dieu devant moi, peut également être élargi. Il ne s'agit pas seulement de ne pas aller adorer Bouddha ou le faux Dieu de la Trinité. Dieu s'étend d'une certaine manière, c'est le premier commandement, au-delà de cela. Nous vivons dans un monde rempli à ras-bord de choses, d'objets, d'idées et de connaissances. C'est comme si nous en étions arrivés au point où, à l'époque de Nemrod, si vous vous souvenez de la Genèse 11, il y avait un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde. Lisons-la rapidement. C'est fascinant. Lisons rapidement le chapitre 11 de la Genèse. Nous en sommes à. Ce que nous allons lire est presque une description exacte du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Genèse 11 et verset 1. Le monde entier n'avait qu'une seule langue et qu'un seul langage. Frères et sœurs, l'Internet ne fait-il pas cela pour nous? N'avons-nous pas accès à toutes les traductions linguistiques possibles et imaginables dans la paume de notre main, dans notre poche? Nous pouvons faire n'importe quoi avec nos téléphones portables. L'IA ne cesse de se développer, de se développer et de se développer, et c'est comme une course. C'est comme cela, à l'époque où ils faisaient la course pour aller sur la Lune. C'est comme cela, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus important que d'aller sur la Lune. La technologie et les progrès des connaissances nous ont permis de faire tout ce que nous voulions. Voici le deuxième verset, et c'est exactement ce qui se passait à l'époque de Nemrod, comme ils partaient de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et brûlons les biens. » Ils eurent des briques pour pierre, et de la boue pour mortier. Ils dirent, « Allez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour qui se bâtissaient. L'Éternel dit, « Voici que le peuple est un, et qu'ils ont tous une même langue. Ils ont commencé à faire cela, et maintenant rien ne leur sera interdit. » Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et Dieu le savait. Il a regardé vers le bas et a dit, « Oh là là, ces gens sont sans entrave. Tout ce qui leur vient à l'esprit, ils vont pouvoir le réaliser et l'accomplir. » La fin du verset ci dit, « Ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent pas les paroles les uns des autres. » Il fallait donc que Dieu intervienne. Mais avant que Dieu n'intervienne, il y avait un monde plein de toutes sortes de choses, d'idées nouvelles et intéressantes, de technologies, de moyens d'être autonomes, autosuffisants. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Construisons une tour si haute qu'elle montera jusqu'au ciel et que nous pourrons remplacer Dieu par toutes les connaissances et les technologies que nous avons acquises. Frères et sœurs, nous en sommes là aujourd'hui. Nous pouvons remplacer Dieu en un claquement de doigts si nous ne faisons pas attention. Et nous n'avons même pas besoin d'aller adorer la Trinité. Nous n'avons pas besoin d'aller adorer Bouddha ou n'importe quel autre faux Dieu. Les dieux sont nombreux et les seigneurs sont nombreux, et mes frères, ils sont au bout de nos doigts. Ils sont partout. C'est là que cela devient dangereux. Nous pouvons idolâtrer et adorer toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises idées, de mauvais concepts si nous nous laissons aller. Nous savons que c'est le cas si nous donnons la priorité à d'autres choses plutôt qu'à Dieu. Vous n'avez qu'à vous poser la question suivante, quelle est la priorité que j'accorde à ma vie? Est-ce que je donne la priorité à la prière, à l'étude de la Bible, à la méditation, etc. sur d'autres choses dans ma journée? Si nous donnons la priorité à d'autres choses, nous pouvons considérer que nous risquons d'enfreindre le premier commandement. L'esprit du premier commandement, c'est de mettre d'autres dieux avant Dieu. Ce n'est peut-être pas la Trinité, ce n'est peut-être pas Bouddha, mais nous placerons d'autres dieux, si vous voulez, avant Dieu. C'est là que cela devient dangereux. Passez au chapitre 6 de Matthieu. Matthieu 6, verset 24 dit ceci. Matthieu 6, 24 dit, Nul ne peut servir de maître. Car, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est l'argent ou toute autre chose physique dans ce monde. On ne peut pas servir à la fois Dieu et les choses, les trucs, les idées. Il se peut que vous vous intéressiez aux théories de la conspiration ou que vous ayez des idées farfelues sur ceci, cela ou autre chose. Si nous commençons à trop concentrer notre attention sur toutes ces autres choses, nous nous laissons entraîner par le mammon, si vous voulez, le mammon de ce monde, et nous ne mettons pas Dieu en premier. Nous ne pouvons pas servir le mammon de ce monde et Dieu. Nous devons mettre Dieu en premier. En pratique, cela signifie que nous établissons des priorités. Nous établissons des priorités. Dans la vie, nous donnons la priorité à tout. Nous devons donner la priorité à ce que nous trouvons le plus important dans notre vie. Et frères, Dieu veut que nous le mettions en premier. C'est ainsi que nous respectons non seulement la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Retournez au chapitre 20 de l'Exode, c'est là que se trouve notre marqueur de livre. L'Exode 20 et le verset 4 disent ceci, Vous ne vous ferez aucune image taillée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde aux milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le voilà, le deuxième commandement. Curieusement, les catholiques, l'Église dont je suis issu, ont fusionné le premier et le deuxième commandement, et ce n'est pas une surprise quand on voit toute l'idolâtrie que l'on trouve dans l'Église catholique. Où que vous alliez, lorsque j'ai visité le Vatican à l'université, ce sont des kilomètres de reliques, des kilomètres de statues en or, de peintures, toutes sortes de petits bibelots imaginables qu'un saint ou quelqu'un a touchés au cours des 2 derniers millénaires ou quoi que ce soit d'autre. C'est sur cela que le monde se concentre. Il se concentre sur les choses physiques. Et les catholiques ont fusionné le premier et le deuxième commandement afin de cacher ce commandement puissant auquel Dieu dit qu'il veut que nous obéissions. Dieu ne veut pas que nous fassions des représentations physiques de lui ou de tout autre faux Dieu. Et les catholiques ont divisé le dernier commandement en deux. Ne convoite pas la femme de ton voisin et ne couvre pas les affaires de ton voisin. En gros. Ainsi, au lieu d'obéir aux 10 commandements actuels, ils en fusionnent deux et en divisent un autre. En termes simples, ils n'aiment pas le deuxième commandement, qui consiste à commettre l'idolâtrie. Ils l'ont donc supprimé, tout comme ils l'ont fait pour le sabbat lors du concile de Nicée, dans les années 300 de notre ère. Mais il y a une nette différence entre le premier et le deuxième commandement. Parce qu'on pourrait dire, eh bien, n'est-ce pas un peu la même chose? Ne sommes-nous pas censés ne pas adorer ou idolâtrer les choses physiques de cette vie? Ne pourrions-nous pas dire que si nous plaçons d'autres dieux devant nous, c'est un peu comme si nous idolâtrions d'autres choses? Dans une certaine mesure, oui, mais voici la distinction. Monsieur Paquet a écrit dans son livre sur les 10 commandements, Le premier commandement interdit d'avoir d'autres dieux avant le vrai Dieu. Le deuxième commandement interdit d'utiliser une image pour représenter le vrai Dieu ou tout autre faux Dieu. Ce commandement traite spécifiquement de l'utilisation d'images physiques pour le culte ou comme représentation de quoi que ce soit lié au culte. Maintenant, la raison pour laquelle ils sont différents, les deux premiers commandements sont différents, c'est que vous pouvez adorer le vrai Dieu et respecter le premier commandement, mais vous pouvez enfreindre le deuxième commandement même si vous adorez le vrai Dieu. Vous pouvez fabriquer une idole. Même si vous adorez le vrai Dieu, vous pouvez fabriquer une idole en essayant de représenter le Dieu que vous adorez, et c'est là que réside le péché. Voilà donc la distinction. Le deuxième commandement traite spécifiquement de la construction d'une sorte de manifestation physique pour vous aider dans votre adoration. Jean 4 au verset 23. Jean 4, reprenez au verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ce que le Père cherche pour l'adorer. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas que nous l'adorions en tant qu'esprit sous une forme physique. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nos esprits physiques aiment les choses physiques. Ils les aiment. C'est vrai. Elles sont plus faciles à voir, plus faciles à saisir. Un Dieu invisible est difficile à voir. Il faut du travail, des efforts, de la réflexion, de la vision pour voir le vrai Dieu, et il faut de la conviction. Si nous ne sommes pas convaincus que le Dieu de l'univers existe, qu'il est vivant, et que nous devons nous convaincre nous-mêmes en fabriquant une statue ou une image physique, alors nous n'adorons pas Dieu correctement. En l'absence d'aide physique, nous sommes obligés de voir l'invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Et même si cela demande plus de travail, cela produit un caractère bien plus grand. Il faut travailler pour prier et croire que le Dieu devant lequel vous vous présentez est réel. Et peu importe que cela plaise à Dieu. Cela produit un caractère puissant en vous, et c'est très agréable pour Dieu. Nous passons aux Actes des Apôtres, Actes 17. Acte 17, nous reprenons au verset 16, qui dit ceci, comme Paul les attendait à Athènes, c'est le récit que fait Paul de son voyage à Marsile, comme Paul les attendait à Athènes, son esprit fut excité, et, voyant la ville entièrement livrée à l'idolâtrie, il disputait dans les synagogues avec les juifs et avec les dévots, et chaque jour au marché avec ceux qui se rencontraient avec lui. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens le rencontrèrent, et les uns dirent, que dira ce bavard? D'autres dirent, il semble qu'il annonce des dieux étrangers, puisqu'il leur a prêché Jésus et la résurrection. Ils le prirent et l'amenèrent à l'aréopage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Ils aimaient entendre des choses nouvelles, et c'était leur Dieu. Leur Dieu entendait toutes ces nouvelles choses merveilleuses qu'ils pouvaient entendre. C'est un nouveau Dieu. Je veux écouter ce nouveau Dieu. Je veux écouter ce nouveau Dieu. Ils idolâtraient et adoraient de faux dieux, beaucoup. Au verset 21, on peut lire, car tous les Athéniens et les étrangers qui se trouvaient là ne passaient leur temps qu'à raconter ou à entendre quelque chose de nouveau. C'était vraiment leur Dieu. Paul, debout au milieu de la colline de Mars, dit, homme d'Athènes, je vois que vous êtes trop superstitieux à tous égards. En effet, en passant, j'ai vu vos dévotions, et j'ai trouvé un autel portant cette inscription, au Dieu inconnu. Cette inscription, cet autel était là pour se couvrir de tous les dieux dont il n'était pas sûr et qu'il voulait s'assurer qu'il continuait à adorer. Et Paul leur indiquait ce Dieu, le Dieu qu'aucun d'entre eux ne connaissait. Celui que vous adorez par ignorance, c'est lui que je vous déclare. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus adoré par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, et qu'il a fait d'un même sang toutes les nations d'hommes pour qu'elles habitent sur toute la surface de la terre, et qu'il a fixé d'avance les temps et les limites de leur demeure, afin qu'elles cherchent le Seigneur, pour qu'elles le cherchent et le trouvent, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu de l'univers ne doit pas être transformé en une sorte de manifestation physique. L'idolâtrie est omniprésente dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque nous nous présentons au monde, il est parfois difficile de se débarrasser de ces manifestations physiques. Je pense à la maison où j'ai grandi, aux nombreuses photos de Jésus avec les cheveux longs. Nous savons qu'il n'a jamais eu les cheveux longs. Il fallait que ces images disparaissent. Si nous avons des statues de Marie ou d'autres saints, des croix, vous pouvez lire les articles que nous avons sur notre site web expliquant en détail pourquoi les croix ne sont pas bonnes. Les colliers d'icônes religieuses, les chapelets, les reliques et toutes ces choses, nous ne nous en occupons plus. Il s'agit du type d'aide physique que nous avions l'habitude d'utiliser comme représentation de Dieu. Et nous pensons que ce n'est pas grave. Nous pensions que c'était acceptable, mais Dieu l'interdit formellement. Mais c'est comme tout dans la vie, on peut aller trop loin. Il y a deux fossés de chaque côté de la route. Nous pouvons soit tomber dans l'idolâtrie, soit tomber de l'autre côté du fossé, c'est-à-dire, par exemple, je suis sûr que dans ma Bible, quelque part, il y a probablement une croix ici. Je n'en suis pas sûr, mais il y a peut-être une sorte de croix ici. Est-ce que cela signifie que je dois déchirer cette page de la Bible parce que c'est une page maléfique, c'est juste méchant et je dois la déchirer? Non, vous n'avez pas besoin de déchirer les pages de votre Bible s'il y a une croix. Faites preuve de jugement, de sagesse et de discernement pour déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'autre chose intéressante, c'est que si vous vous reportez au deuxième commandement, il est dit, dans la lettre de la loi, que vous ne ferez pas d'image en bois de petits animaux ou d'autres choses de ce genre. Si nous regardons cela et disons, oh, non, cela signifie-t-il que je ne peux pas avoir une petite statue sur mon manteau pour décorer, comme une baleine ou un bol ou quelque chose comme cela? Non, cela ne veut pas dire cela. Il s'agit de statues et d'images destinées au culte. Si nous avons un bibelot sur notre manteau ou sur une étagère et que nous ne le vénérons pas, c'est normal de l'avoir. Il n'y a rien de mal à cela. Nous pourrions aller dans l'autre fossé et commencer à jeter toutes ces choses dans notre maison et n'avoir plus aucune sorte de décor. Les maisons seraient alors vides, et ce n'est pas le but recherché. Le but est que nous ne fabriquions pas d'images pour l'adoration. C'est le deuxième commandement. C'est le deuxième commandement. Il est distinct du premier, mais tout aussi important. Reprenons le chapitre 20 de l'Exode. Lisez le troisième commandement. Reprenez-le au verset 7. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. La lettre de la loi est donc facile à comprendre pour ce commandement. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ne l'utilisez pas de manière vide et désinvolte. Les gens disent toutes sortes de choses terribles dans ce monde, des jurons et ainsi de suite, et ils prennent souvent le nom de Dieu en vain. C'est ce qu'ils font. Il est donc facile de comprendre la lettre de la loi, que nous ne sommes pas censés faire cela, mais utiliser des euphémismes est également quelque chose que nous ne faisons pas dans l'Église de Dieu. Nous ne prenons pas, et je vais dire les euphémismes pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils sont, et j'espère que Dieu me pardonnera de le dire, mais vous comprenez que les euphémismes sont d'autres façons de dire que l'on prend le nom de Dieu en vain. Nous ne disons pas OMG, par exemple. Nous n'écrivons pas OMG, nous ne le tapons pas, nous ne le disons pas, parce que c'est en fait dire le nom de Dieu en vain. Nous ne faisons pas cela. Nous prenons le nom de Dieu en vain et nous enfreignons donc le troisième commandement. Frères et sœurs, souvenez-vous que nous essayons de construire une relation avec Dieu. Nous cherchons à savoir où, dans notre vie, nous pouvons soutenir et renforcer la relation que nous construisons avec le Dieu de l'univers. Et c'est l'un des moyens d'y parvenir. D'autres euphémismes sont « Oh mon Dieu !» Nous ne voulons pas dire cela. Nous ne voulons pas dire cela. Vous n'entendrez personne dans l'Église de Dieu, si vous avez été dans l'Église de Dieu pendant un certain temps, vous n'entendrez personne dire ce genre de choses. Parce que dans l'Esprit de Dieu, elles sont tout aussi mauvaises. Vous pourriez tout aussi bien le dire. Vous le pensez dans votre tête et vous remplacez simplement le nom de Dieu par d'autres mots moins importants, mais vous dites en fait la même chose. L'intention est la même. Nous ne voulons pas faire cela. Nous ne voulons pas tomber dans ce travers. Et peut-être que certains nouveaux frères ne connaissaient pas ce genre de choses, il est donc bon de les passer en revue. Passez à Jean 17. Nous commencerons au verset 9. Jean 17, 9. Je prie pour eux, Christ parle. Je crois que c'est une prière au Père. Il prie Dieu en disant, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Encore une fois, Dieu nous a appelés et nous sommes dans ce monde. Nous ne pouvons pas quitter ce monde et aller dans un autre monde, nous devons demeurer dans ce monde et vaincre dans ce monde. Christ dit donc, car ils sont à vous, verset 10, tous les miens sont à vous, et les vôtres sont à moi, et je suis glorifié en eux. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde et je viens à toi, Père Saint, garde-les, garde par ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, ceux que tu m'as donnés et que j'ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Christ a dit que Dieu nous garde en son nom. Comme pour les autres commandements, il y a la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Dieu a élargi les lois à certains égards, et je pose donc la question suivante, prendre le nom de Dieu en vain consiste-t-il simplement à prononcer son nom de manière incorrecte ou vide, à le dire de manière incorrecte ou à l'utiliser de manière incorrecte, ou à utiliser une sorte d'euphémisme? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans le fait de prendre le nom de Dieu en vain ou est-ce que c'est plus grave que cela? Jean 17, versets 11 et 12, prouve que Dieu dit qu'il nous a donné son nom. Père Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné. Nous portons donc le nom de Dieu avec nous partout où nous allons. Vous vous rendez compte que nous sommes appelés l'Église de Dieu. Nous sommes appelés l'Église de Dieu. Les appelés. Église signifie Clicia, et cela signifie les appelés de Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment physique où nous nous rendons. L'Église, c'est vous et moi. Nous sommes les appelés et nous sommes les appelés, nous sommes les appelés de Dieu, l'Église de Dieu. Nous portons donc avec nous le nom de Dieu partout où nous allons. Vous savez, vous pensez au nom qui se transmet de génération en génération. J'ai un oncle qui s'appelle Cri. Il a appelé son fils Cri Junior, c'est un honneur d'avoir reçu ce nom, le nom de votre père. Vous voulez être à la hauteur de ce nom. En tant que fils, je veux être à la hauteur du nom Holcombe. Nous pourrions tous penser à nos racines. Nous ne voulons pas déshonorer la famille dont nous sommes issus. Nous voulons les honorer. Nous voulons qu'ils se sentent bien avec leurs enfants, qu'ils prennent le nom qui leur a été donné et qu'ils continuent à faire le bien avec lui. Dieu est le même. Il ne veut pas que nous prenions son nom, que nous portions son nom en tant qu'Église de Dieu en main. Ce troisième commandement peut donc être élargi, Bien sûr, au-delà du simple fait de dire le nom de Dieu en vain, à nos actions. Que faisons-nous? Les choses que nous faisons dans cette vie sont importantes. Si vous pensez au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, lorsque nous déshonorons et déplaisons à Dieu, nous le représentons mal et nous traînons son nom dans la boue. Ne pouvons-nous pas faire cela? Non, nous n'avons peut-être pas dit OMG ou quelque chose comme cela, nous n'avons peut-être pas dit un euphémisme, mais nous pouvons toujours enfreindre ce troisième commandement dans l'esprit de la loi. 2 Corinthiens 5 et verset 20. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions à la place de Christ de vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Le mot signifie représentant. Nous représentons Christ et Dieu dans tout ce que nous faisons. Pensez à un ambassadeur des États-Unis. Les ambassadeurs des États-Unis portent le nom des États-Unis dans le pays où ils se trouvent. Il peut s'agir de l'ambassadeur des États-Unis à Bahreïn ou au Royaume-Uni. Partout où ils sont ambassadeurs, ils portent le nom des États-Unis et représentent donc les États-Unis dans ce qu'ils font. Par conséquent, si un ambassadeur des États-Unis sort et se saoule, se défonce, va à des fêtes toute la nuit, fait des choses illicites et que cela est rapporté dans les journaux, pensez-vous vraiment que cet ambassadeur va rester ambassadeur? Bien sûr que non, car il ne représente pas le gouvernement dont il porte le nom. Le verset 20 de l'épître aux Philippiens dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous représentons le gouvernement de Dieu partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité à la légère. Cela rompt l'esprit du troisième commandement. Donc si nous, même si nous nous habillons mal ou agissons mal en public, souvenez-vous que vous ne portez pas seulement le nom de votre propre famille, vous portez le nom de Dieu avec vous où que vous alliez. Et si nous prenons cela au sérieux, frères, nous construirons une relation encore plus forte avec Dieu. Il regardera vers le bas et dira, mon serviteur, celui que j'ai appelé est sérieux. Il veut m'honorer. Il ne veut pas se promener en se comportant mal et en traînant mon nom dans la boue. Il veut défendre mon nom. Nous voulons que Dieu se penche sur nous comme le ferait un père fier. En tant que père fier, je regarderai ma fille et lui dirai, je suis fier que tu aies fait cela. Je suis heureux que tu aies choisi de faire ce qu'il fallait au lieu de faire quelque chose de mal. Nous voulons que Dieu nous regarde et dise la même chose à notre sujet. Galates 1. Pendant des millénaires, les frères ont compris et vécu selon cette idée que nous pouvons prendre le nom de Dieu en main ou que nous pouvons défendre le nom de Dieu par nos actions. Galates 1, verset 13. Le 13e verset de Galates 1 dit, vous avez appris, en effet, que je me suis conduit autrefois dans la religion juive, et que j'ai persécuté sans mesure l'Église de Dieu, et que je l'ai anéantie. Comment Paul a-t-il persécuté l'Église de Dieu? On peut se poser la question. En creusant un peu plus loin dans la pensée de Paul, on s'aperçoit qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il persécutait l'Église de Dieu et savait qui en faisait partie par ses actes. Les membres de l'Église de Dieu qui portaient le nom de Dieu sur eux n'avaient pas honte. C'est pourquoi Paul était capable de les repérer. Il pouvait faire la différence entre quelqu'un qui suivait Dieu et Christ de la Bible et quelqu'un qui était peut-être juif, qui ne le faisait pas, qui obéissait à ses propres idées et à sa propre pensée. Paul était donc capable de discerner les vrais frères au premier siècle par leurs actions. Il savait qu'il fallait les persécuter pour cela aussi. C'est donc une chose de ne jamais dire le nom de Dieu en vain, ou d'utiliser des euphémismes, comme je l'ai dit, mais la question la plus importante est de savoir comment nous nous comportons. Portons-nous le nom de Dieu en vain? Et si nous sommes propres dans ce domaine, mes frères, notre relation avec Dieu s'en trouve renforcée de manière incommensurable. Venons-en donc au quatrième et dernier commandement. Construire des relations avec Dieu. Exode, chapitre 20. Exode 20 et verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Le sabbat est donc, bien sûr, le quatrième commandement auquel le monde ne s'intéresse pas vraiment. D'une certaine manière, il pense qu'il est bon de respecter tous les autres commandements. Mais pour une raison ou une autre, le quatrième commandement n'est pas important. Il n'est tout simplement pas important. On explique qu'il fait partie de la loi. Eh bien, ils font tous partie de la loi. Cela n'a rien à voir avec ce qui est censé être supprimé. Dieu veut que nous observions le sabbat et nous comprendrons clairement pourquoi ici dans le chapitre 31 de l'Exode. Quelques chapitres plus loin. Exode 31 et verset 14. Pourquoi le sabbat est-il si important? Le verset 14 dit, « Vous observerez le sabbat, car il vous est consacré. Quiconque le profanera sera puni de mort. Quiconque y fera quelque ouvrage sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, vous travaillerez. Mais le septième jour est le sabbat du repos, consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage pendant le sabbat sera puni de mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant de génération en génération, comme une alliance perpétuelle. Ce n'est pas quelque chose que nous supprimons. Car c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, pour toujours. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre. Le septième jour, il s'est reposé et s'est rafraîchi, et il a donné à Moïse, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le sabbat est donc, on pourrait même dire qu'il est plus spécial à certains égards que d'autres commandements, dans la mesure où il est un signal entre Dieu, un signe entre Dieu et son peuple. C'est encore une autre façon de distinguer le peuple de Dieu de la masse. Regardez le chapitre 2 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 2, comment observons-nous le sabbat? Le traitons-nous avec le respect que Dieu attend de nous? Car, encore une fois, il s'agit d'un signe entre lui et son peuple. La manière dont nous traitons le sabbat est le reflet direct de notre relation avec lui. Si nous ne le respectons pas du tout, nous n'avons pas de relation avec lui. En le respectant et en le respectant pleinement, nous renforçons cette relation et ce lien que nous avons avec Dieu et Christ. Marc, chapitre 2, verset 27, il lui dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi Seigneur du sabbat. Dieu nous a donné le jour du sabbat, non seulement comme un moyen de montrer clairement qui est son peuple, mais le sabbat a été fait pour nous. Il est là pour notre bien. Il nous permet de nous reposer de tout le travail que nous faisons le reste de la semaine. Nous devrions nous sentir honorés de respecter le sabbat, car il n'est pas pénible à respecter. Vous savez, quand j'étais à l'université, le sabbat me soulageait. J'avais des projets avec mes autres amis architectes, et des projets de groupe dans certains cas, où je devais simplement, au coucher du soleil le vendredi soir, tout arrêter et dire, Désolé, je dois y aller. Je dois aller respecter le sabbat. Et ils sont là, assis, à se demander ce qu'ils font. Vous devez nous aider. Pourquoi tu ne nous aides pas? Et j'ai dit, vous pourriez prendre ce congé si vous le vouliez. Tu n'as pas besoin de faire le travail non plus. Vous savez, c'est quelque chose dont j'étais convaincu. Et en fin de compte, le projet s'est très bien déroulé. Et cela m'a montré que Dieu... Excusez-moi, vous pouvez vraiment vous en sortir. Dieu veut que nous ayons ce jour de congé pour nous détendre, nous reposer, recharger nos batteries, si vous voulez. Se rapprocher de lui, se rapprocher de nos familles, se rapprocher des frères du monde entier. La fraternité. Dans la course effrénée dans laquelle nous vivons, nous ne disposons pas de ce temps tout au long de la semaine. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit que nous devons observer le sabbat, nous pouvons le considérer de deux manières. Nous pouvons le voir comme une série de listes de choses que nous n'avons pas le droit de faire, ou nous pouvons le voir comme une liste de choses que nous n'avons pas le droit de faire. Qu'est-ce qu'on regarde? Comment considérons-nous le sabbat? Le considérons-nous comme une série de choses que nous n'avons pas le droit de faire ou comme une série de choses que nous n'avons pas à faire? Changez votre mentalité sur le sabbat. Il ne devrait être un fardeau pour aucun d'entre nous. En fait, il devrait être un soulagement. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Mais s'il arrive que nous ayons le sentiment que le sabbat est un fardeau, qu'il est pénible, que je dois faire une heure de route pour aller à l'école, que je ne peux pas m'en passer, que je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas m'en passer. Oh, je dois faire une heure de route pour me rendre au culte, ou je dois préparer un plat pour le potluck et c'est difficile, mes frères, pensez à l'alternative. Nous ne pourrions pas être appelés par Dieu. Nous ne respecterions pas le sabbat. Nous ne pourrions pas avoir ce signe merveilleux entre lui et son peuple. Nous pourrions être comme le reste du monde qui est un peu gros, stupide et heureux de vivre sa vie, qui enfreint le sabbat sans problème, mais qui a toutes sortes de problèmes à cause de cela. Dieu nous a donné ce joyau de jour sanctifié et saint pour que nous puissions nous rapprocher les uns des autres et nous rapprocher de Dieu. C'est l'objectif principal. Passez à Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel te guidera sans cesse, il rassasiera ton âme dans la sécheresse, il engraissera tes os, et tu seras comme un jardin arrosé. Il s'agit d'une prophétie. Et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas, et ils seront, ceux qui seront des vôtres rebâtiront les anciennes ruines jusqu'au millénium. Vous relèverez les fondements de nombreuses générations, et l'on vous appellera ceux qui réparent les brèches, ceux qui rétablissent les chemins pour les habitations. Si vous détournez votre pied du sabbat, si vous cessez de faire votre plaisir en mon saint jour et si vous appelez le sabbat un délice, si vous cessez de faire votre plaisir le jour du sabbat et si vous appelez le sabbat un délice, alors le saint de l'Éternel sera honoré, et il l'honorera. Tu ne suivras pas tes propres voies, tu ne trouveras pas tes propres plaisirs, tu ne diras pas tes propres paroles, alors tu feras tes délices dans le Seigneur, et je te ferai monter sur les hauteurs de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche du Seigneur l'a dit. C'est une promesse absolue de Dieu. La façon dont nous traitons le jour du sabbat est directement proportionnelle à la profondeur du lien que nous entretenons avec Dieu. Et lorsque nous avons un lien profond avec Dieu, par ce qu'il dit ici, tu feras tes délices de l'Éternel. Non seulement vous vous délecterez du sabbat, mais vous vous délecterez du Seigneur, et Dieu dit, je vous ferai monter sur les hauteurs de la terre. C'est une promesse. La revendiquons-nous? Croyons-nous que si nous prenons plaisir au sabbat, Si nous changeons notre état d'esprit, si nous changeons notre perspective, si nous prenons plaisir au sabbat, alors Dieu nous fera monter sur les hauteurs de la terre. Ce mot, plaisir, signifie luxe. Le sabbat doit être un plaisir, un luxe. C'est un luxe pour nous. Nous devons le voir ainsi. Pour certains, cela peut demander du travail. Cela peut demander du travail. Ce n'est pas le cas. Parfois, le sabbat est encore un travail à certains égards. Il faut travailler et faire des efforts pour se rendre aux offices. C'est du travail et des efforts pour faire l'installation. C'est un travail et un effort que de préparer le plat du jour, de s'assurer que tout est bien présenté. C'est un travail et un effort de démonter la salle ou de la changer. Ce n'est pas le genre de travaux dont Dieu parle, que nous ne sommes pas censés faire le travail le jour du sabbat, c'est le genre de choses qui peuvent nous aider, si nous le voyons comme une opportunité, qui peuvent nous aider à aider d'autres personnes à profiter du sabbat, et à se rapprocher de Dieu eux-mêmes. Frères et sœurs, en guise de conclusion, revenons au chapitre 20 de l'Exode. Nous lirons ce dernier, peut-être l'avons-nous déjà vu. Peut-être l'avons-nous vu. Allez au chapitre 5 du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 5. Lisons ce quatrième commandement sur le sabbat dans le récit du Deutéronome. Et remarquons quelque chose de fascinant. Il est dit ici au verset. Deutéronome 5 et verset 14. Le verset 12 dit, observez le sabbat. Le verset 13 dit, vous travaillerez 6 jours et vous ferez tout votre ouvrage. Mais le septième jour, verset 14, est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. Très similaire à Exode 20. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, etc. Tout cela afin que ton serviteur et ta servante se reposent aussi bien que toi. Verset 15. Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela est-il placé au milieu du commandement de la discussion sur le jour du sabbat? Souviens-toi que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Pourquoi, au milieu du récit du commandement de respecter le sabbat, Dieu a-t-il ajouté ce commentaire apparemment à gauche sur la sortie d'Égypte d'Israël? Eh bien, cela peut sembler sortir du champ gauche, mais ce n'est absolument pas le cas. Autrefois, Dieu n'appelait pas les Égyptiens à sortir d'Égypte. Nous le savons tous. Il a appelé Israël à sortir d'Égypte. Dieu n'a pas appelé les Égyptiens à sortir. Ils ont été engloutis dans l'eau lorsqu'ils ont essayé de suivre Israël à travers la mer Rouge. Il a seulement protégé et appelé Israël à sortir. L'Égypte est un type de ce monde, comme nous l'avons entendu dire pendant les jours des pains sans levain. L'Égypte est un type de ce monde. Ainsi, lorsque Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte dans l'Antiquité, il n'a pas appelé les Égyptiens avec eux. Il en est de même aujourd'hui, frères, Dieu n'appelle pas les masses de l'Égypte proverbiale de ce monde aujourd'hui. Il appelle un petit nombre très spécifique. Et la raison pour laquelle Dieu a placé ce récit de la sortie d'Égypte d'Israël au milieu du commandement de respecter le sabbat, c'est parce qu'il veut que nous comprenions profondément que nous sommes comme Israël sortant d'Égypte. Nous sommes très peu nombreux. Dieu nous appelle à observer le sabbat comme un signe entre lui et son peuple. L'Égypte de ce monde ne respecte pas le sabbat. Les gens dans le monde n'observent pas le sabbat. Les masses, je veux dire. Certains le font, comme les adventistes du septième jour, etc. Quelques rares personnes, les juifs bien sûr, observent le sabbat, mais la masse n'observe pas le sabbat. Dieu ne les appelle pas encore à sortir du monde. Ce n'est pas leur chance. Il veut montrer le signe entre lui et son peuple maintenant. Alors frères, si nous avons l'honneur de garder le sabbat, parce que Dieu nous a donné cette chance, profitons-en. Ne l'oublions pas lorsque nous observons le sabbat. Souvenons-nous que nous sommes le petit nombre d'Israéliens spirituels, qui ont été appelés à sortir de ce monde, de cette Égypte, pour célébrer ce jour très spécial. Ne l'oublions jamais. Frères et sœurs, en conclusion, ces quatre premiers commandements définissent notre relation avec Dieu. Dieu veut que nous vivions à sa manière, à la fois envers lui dans les quatre premiers commandements et envers toute l'humanité dans les six derniers. Mais les quatre premiers sont au centre de notre attention, ne pas avoir d'autres dieux devant moi, ne pas créer d'image de Dieu ou de faux dieux, ne pas prendre le nom de Dieu en main, et honorer le sabbat. Gardez le saint. Frères et sœurs, n'oublions jamais ces quatre premiers commandements et, par conséquent, n'oublions jamais le grand Dieu qui nous a donné notre vocation la plus précieuse.